des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.
Bonjour à tous, voici une nouvelle émission de l'eau à la bouche des amis de la bibliothèque. Bonjour Robert.
Bonjour Jacqueline.
Alors aujourd'hui, on va vous parler de deux romans. Le premier s'appelle « La nuit tombée sur nos âmes » de Frédéric Paulin et le second « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens. Alors commençons par « La nuit tombée sur nos âmes ». Ce livre est rangé dans les polars à la médiathèque, mais c'est avant tout un roman noir, car il n'y a pas d'enquête ni d'énigme, c'est une sorte de docu-fiction. Cela se passe lors du G8 à Gênes en 2001. Les protagonistes sont des personnages fictifs, mais l'histoire s'appuie sur des faits réels. L'auteur, d'ailleurs, introduit dans son récit des personnages plus ou moins connus, qui ont participé à ce qu'il faut bien appeler un sacré bazar. Mais rappelons ce qu'est le G8.
C'est une sorte de club qui rassemble chaque année les chefs d'État des 8 pays les plus industrialisés et qui a démarré en 1975. C'était le G7, c'est devenu le G8 avec la Russie. Après le premier choc pétrolier, pour se concerter sur les grandes problématiques, notamment économiques.
L'histoire débute à Göteborg, en Suède, lors du sommet des 15 pays de l'Union européenne en juin 2001, où il y eut des affrontements violents entre manifestants antimondialistes et la police, qui se sont soldés quand même par 600 blessés, dont 60 grièvement et un mort. Lors de ces charges de police, WAG, jeune étudiant, ancien militant à la SCR, Ligue communiste révolutionnaire, va sauver Nathalie, anarchiste, et commencer une liaison avec la jeune femme. Ces deux personnages vont prendre la route pour Gênes en juillet 2001 pour s'opposer au G8. La suite va se dérouler comme un road trip en temps réel. On apprend pas mal de choses sur les corpuscules politiques, altermondialistes, le Black Bloc, les adeptes de la non-violence et les adeptes de la lutte armée. Mais on découvre aussi les stratégies politiques et ou policières, les tractations entre gouvernants, dont les sous-fifres sont souvent sur un siège éjectable, et bien entendu, toutes les magouilles, les courses à la promotion. On voit aussi le durcissement des forces de police, les nostalgiques du fascisme, les infiltrés. Alors, les personnages. Il y a donc Wag et Nathalie, pas forcément d'accord sur les modalités de la lutte. Deux policiers français qui vont infiltrer les militants, deux journalistes français, une plume de Chirac, avide de reconnaissance et qui va se trouver engagé dans une mission imprévue. Et puis aussi les personnages italiens, politiciens, carabinieri, les forces d'intervention. Tous ces personnages vont se croiser, s'épier, se tromper, réfléchir, faire des choix plus ou moins judicieux dans un scénario qui va évoluer en tension, en peur et en catastrophe. Car dès le début du roman, on est prévenu.
À Gênes, un nombre incalculable de personnes innocentes ont subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. Si aujourd'hui encore, 16 ans plus tard, c'est un motif de douleur, de rancœur, de défiance envers la police, cela signifie que la réflexion n'a pas été suffisante. Franco Gabrielli, chef de la police italienne, le 19 juillet 2017, dans La Repubblica.
Maintenant, parlons des lieux. de ce G8. Plusieurs zones. La zone rouge, interdite au public, que bien sûr les manifestants vont tenter de franchir. Le camping, lieu interlope où se croisent des personnages comme Mirko, gros bras, tatoué, croix de Lorraine, prof de philo à Belgrade. Ou encore Mira, ado, piercing, face à la photographe.
Pas moi, pétasse, j'ai mon droit à l'image.
Et surtout, l'école Diaz, qui existe, et a été le théâtre de violences policières. Parlons du style. L'auteur ne fait aucun commentaire ni analyse. Il met en scène les personnages, les fait parler, s'interroger. Bien sûr, il dénonce les actes d'humiliation et de torture infligés aux manifestants. Et d'ailleurs, à la fin du roman, il relate les témoignages réels de femmes et d'hommes, de jeunes, voire de très jeunes, qui ont été maltraités, voire torturés. Dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est de suivre les cheminements des personnages, leurs pensées et les questions que posent leurs choix. Il y a aussi de l'humour et de l'ironie. Lamarre, personnage complexe et complexé, écrivain des discours de Chirac, lui fera dire
« Je vais à Gênes, convaincu que les sommets du G8 sont l'occasion de progresser dans l'humanisation et la civilisation de la mondialisation, dans le respect des différences et l'attention des plus vulnérables. »
Voilà. Rappelons, qui était présent à ce G8 ?
Jacques Chirac, France. Jean Chrétien, Canada. Junichiro Koizumi, Japon. Tony Blair, Royaume-Uni. Silvio Berlusconi, Italie. Vladimir Poutine, Russie. Une fine équipe.
Et donc, il y a aussi du cynisme. Ainsi, le conseiller en sécurité italien.
Franco De Carli éclate d'un rire bienveillant. Il maîtrise ce rire sympathique depuis qu'il a choisi la voie de l'entrisme en politique.
Il y a aussi de la peur. Ainsi, Nathalie.
Elle parvient à circonscrire sa paranoïa. Mais une crainte grandit en elle, comme si le cirque ne pouvait tourner qu'au tragique.
Et puis, des argumentations. Exemple, cours de Nathalie sur l'anarchisme à la journaliste française.
D'abord, les gentils altermondialistes oublient un peu vite que toutes les idéologies politiques ou religieuses ont toujours utilisé et justifié la violence quand cela leur convenait. Et puis franchement, si tu regardes l'histoire de l'anarchisme, tu trouveras plus de partisans non-violents que violents.
Puis plus tard, toujours à la journaliste,
on entend partout « la violence c'est mal ». Qui nous vend ce discours à ton avis ? Ben moi je vais te le dire, ce sont ces 8 mecs les plus violents du monde.
Donc voilà, un livre passionnant que vous trouverez dans les rayons polars de la médiathèque. Je vous redonne le titre, « La nuit tombée sur nos âmes » de Frédéric Paulin. Le deuxième livre dont on va vous parler va aussi aborder le thème de la résistance, mais bien différemment. Et il s'intitule « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens. C'est un roman conséquent, 476 pages, mais alors 476 pages à savourer. Ça se passe en Caroline du Nord dans les années 50. Il y a deux personnages principaux, Kia, qui est une jeune femme, dont on va suivre la vie depuis ses 7 ans jusqu'à ses 64 ans. Et le deuxième personnage, c'est le Marais, un territoire entre terre et mer, plein de richesses et surtout le lieu d'ancrage de Kia, son refuge. Car
le Marais n'est pas un marécage. Le marais, c'est un espace de lumière où l'herbe pousse dans l'eau et l'eau se déverse dans le ciel.
Kia est appelée la fille des marais. Elle y est née, y a été abandonnée peu à peu par les membres de sa famille et y a vécu toute sa vie au plus près de la faune, de la flore et des moindres recoins de ce marais dont elle deviendra une spécialiste. Tout au long du roman, le lecteur accompagne Kia, d'abord enfant puis jeune adulte, qui, par sa débrouillardise, va survivre et développer une connaissance scientifique de ce lieu. Et même si ce n'est pas toujours joyeux, on est entraîné dans ses promenades, ses découvertes et sa vie simple et naturelle. C'est une leçon de vie et une leçon de choses, c'est simple et beau à la fois. Ça parle aussi de solitude, de rencontres plus ou moins sympathiques, de la découverte d'être femme et libre, et parfois du prix à en payer. L'auteur, qui est une scientifique, émaille le récit de descriptions de plantes et d'animaux qui s'en sert parfaitement. Et d'ailleurs, Kia, qui finalement connaît mieux les animaux que les humains, essaie de comprendre ces derniers parce qu'elle a observé de la faune. Par exemple, sur les lucioles, voici quelques extraits.
Avec mélancolie, elle regarda les lucioles griffer le ciel de la nuit. Chaque espèce de luciole possède son propre langage de lumière. Les mâles, bien sûr, connaissaient les signaux. L'une des femelles venait de changer de code. Un mâle vola vers elle. Et il s'approcha pour s'accoupler. Mais brusquement, la femelle se releva, le prit entre ses mandibules et l'engloutit, dévorant ses 6 pattes et ses 2 ailes. Les femelles obtenaient ce qu'elles voulaient, d'abord un compagnon, ensuite un repas.
Les personnages secondaires sont aussi intéressants, en particulier Jumping et sa femme Mabel, qui seront toujours présents à distance comme des parents de substitution, avec un profond respect de la vie de Kia. 2 éléments ont une grande importance. D'abord, l'apprentissage de la lecture. C'est un moment fort du roman. Grâce à Tate, un jeune garçon, Kia va apprendre à lire. Et puis, la poésie. Kia se récite des poèmes qu'elle extrait du recueil de sa mère qui a quitté le domicile depuis fort longtemps. Et puis, Tate et Kia prennent aussi du plaisir à en lire quand elle commence à maîtriser la lecture. Ainsi, Tate.
Dans un poème, les mots font plus que dire des choses. Ils éveillent des émotions. Des fois même, ils te font rire. Écoute un peu. Puis papa, longue jambe, et monsieur, aile tombante, coururent vers la mer. À grands cris, gais et clairs. Ils trouvèrent un bateau, voile rose et tout beau, et voguèrent loin, loin, vers le ciel de demain. C'est de Edward Lear.
La poésie est l'élément auquel Kia se raccroche et qui lui permet soit d'extérioriser ses sentiments, soit d'exorciser ses inquiétudes. Elle se récite les poèmes d'Amanda Hamilton, dont on découvrira l'identité à la fin du roman. Ainsi, Kia.
Il ne faut pas sous-estimer le cœur qui peut envisager des actes non prémédités. Le cœur ressent et il agit. Sinon, qui pourrait expliquer l'âpre chemin que j'ai suivi, que toi aussi tu as suivi, à travers col et défilé?
En filigrane, on ressent aussi la vacuité du progrès, le machisme, la force des préjugés, et surtout, on découvre l'art de ne pas se soustraire complètement au système, même si à un moment, Kia va aussi en profiter par la vente de son livre, mais sa vie ne changera pas fondamentalement. Et puis, il va y avoir une partie qui nous fait quitter le marais et pénétrer la ville et l'institution judiciaire, que personnellement je trouve un peu longue, mais qui va aussi soulever des questions intéressantes sur le doute, la vérité. Rien n'est ni noir ni blanc. Les personnages sont parfois ambigus et lâches. Elle-même, Kia, cherche aussi à ajuster sa vie relationnelle et à trouver les clés de la vie en société. Bref, un super roman dont on rentre avec délices et on a du mal à en sortir après. Je vous redonne le titre, Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Et je dois dire merci à Robert qui m'a présenté ces deux livres que j'ai vraiment dégustés. Eh bien, bonne lecture à toutes et à tous, et puis à bientôt sur Barthas.
Des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Barthas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.